On est presque rendu pour démarrer ce matin. Bonjour Didier, sois béni. On continue à prier pour l'ouverture d'une bonne porte au niveau professionnel pour Didier. D'accord, là on va prier pour débuter ce matin. Seigneur, merci pour ta présence parmi nous, parce que tu nous dis que là où deux ou trois sont réunis, tu es au milieu d'eux. Et au-delà, Seigneur, des distances qui nous séparent, nous sommes quand même tous réunis à cet instant précis pour te louer, pour t'adorer et pour recevoir de toi instruction, recommandation et sagesse. Alors nous te demandons, Seigneur, de répandre sur nous ta grâce, d'ouvrir notre entendement à ta parole, de toucher nos cœurs et de façonner nos vies pour que nous puissions te servir, toi seul, avec tout ce que nous avons, avec tout ce que nous sommes, sachant, Seigneur, que c'est une grâce et un privilège même d'œuvrer pour l'avancement de ton royaume. Ce matin, bénis notre compréhension, permets-nous, Seigneur, de saisir ce que tu as pour nous, ce que tu désires pour nous. Et qu'en toute chose, Seigneur, que toute la gloire te revienne à toi et strictement qu'à toi. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, on est rendu à notre 17e journée sur 50 dans ce périple de début d'année. Comme vous savez, c'est le 50e anniversaire de notre groupe d'église. C'est donc l'occasion de prendre 50 jours à étudier ce texte qui est relié au jubilé, donc à la fête des 50 ans. Et on y voit ce que le Seigneur a proclamé pour lui-même, effectivement, en tant que Messie, mais aussi ce qui a été proclamé pour nous en tant que serviteurs et imitateurs de Christ. Alors, je lis pour vous dans Ésaïe, au chapitre 61, les quelques premières phrases qui nous sont mentionnées. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et la phrase que nous étudions cette semaine, la troisième ou la non troisième au niveau du verset 1, et on prend simplement les quelques premiers mots, il m'a envoyé pour. Il m'a envoyé pour, point de suspension. Hier, on a vu tout ce qui concernait l'appel de Dieu. Donc, plus ou moins, l'émission du mandat. Comment Dieu émet un mandat sur la vie d'un homme, d'une femme. On a vu la différence entre le service et le ministère. On a vu que nous étions tous appelés à servir Dieu. Autant qu'on soit et quelles que soient nos qualités et nos forces, nous sommes tous appelés à servir Dieu. Mais que de surcroît à nous tous qui servons Dieu, il y a aussi des hommes, des femmes que Dieu prend de façon spécifique et qu'il donne à l'Église comme une bénédiction et comme des ouvriers au sein de son armée, au sein de son peuple, qu'on va appeler des ministres, donc qui ont des ministères. Et on a vu que ce ministère n'était pas dû aux qualités intrinsèques d'une personne, n'était pas dû aux qualifications académiques d'une personne, n'était pas dû au savoir humain d'une personne et au mérite d'une personne, mais était dû tout simplement à la grâce de Dieu et à la bonne volonté donc de Dieu. Et on a vu donc comment Dieu se manifestait pour appeler quelqu'un. Aujourd'hui, on va pousser un peu plus loin la pensée. Une fois que tu as été appelé, tu comprends que tu as été appelé pour quelque chose. Tu comprends que tu as été appelé pour un travail. Mais encore faut-il se préparer à ce travail-là et avoir des choses déjà décidées, déjà fermement acquises dans notre vie. Alors, on va retourner dans un passage où Paul s'adresse à un jeune ouvrier et il lui donne quelques recommandations. Je vous invite donc à ouvrir avec moi dans 2 Timothée au chapitre 2. Vous savez que Timothée était le fils spirituel de Paul. C'était ce jeune homme qu'il avait vu grandir, sur lequel il avait reconnu effectivement une onction de la part de Dieu, sur lequel il avait aussi confirmé un appel de Dieu, sur la vie duquel il avait confirmé un appel de Dieu. Donc on va voir quelles sont les recommandations que Paul va faire à Timothée. Et voyant ces recommandations, ça sera aussi pour chacun d'entre nous un enseignement. 7 points importants qu'on va relever aujourd'hui des 7 premiers versets du chapitre 2. Donc 2 Timothée, deuxième livre de Timothée, chapitre 2, du verset 1 au verset 7. Et je lis pour vous. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. » Alors voilà des recommandations, comme je disais, que Paul adresse à son fils spirituel. Pour que vous compreniez un peu le contexte de Timothée, Timothée est donc un jeune homme que Paul a connu depuis son adolescence, un jeune homme qui a servi auprès de sa maman et de sa grand-mère, qui étaient reconnues comme étant des dames qui soutenaient l'œuvre de Dieu, qui étaient des chrétiennes convaincues et sur qui il y avait une grâce et une onction toute particulière. Et Paul va dire à un moment donné que cette onction qui était sur sa mère ou sur la mère de Timothée et sur la grand-mère de Timothée a coulé jusqu'à lui. Et pour ceux qui veulent, vous allez voir l'enseignement que j'ai donné pour la fête des mères en 2020, toujours disponible sur la page Facebook de l'Église ou sur la page Internet de l'Église. Je parle effectivement des aïeuls de Timothée, de cette grâce qui a été communiquée jusqu'à Timothée. Cette onction coule sur Timothée et Paul va l'utiliser, va l'amener avec lui dans des voyages. Et à un moment donné, il lui adresse une recommandation particulière ou un mandat particulier d'aller s'occuper de l'église d'Éphèse qui passait par des moments difficiles. Alors Timothée se trouve à l'église d'Éphèse et Paul lui écrit avec des recommandations, sachant qu'il se pourrait qu'il ne puisse plus le revoir puisque Paul est déjà en route vers Rome où il va mourir. Alors voici 7 points qu'il va dire dans les quelques phrases que nous venons de lire dans 2 Timothée 2, du verset 1 à 7. Premièrement, il va dire « Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Donc la première leçon qu'il veut que Timothée retienne, c'est qu'il doit se fortifier effectivement dans la grâce. Se fortifier dans le fait qu'il est un gracier. Baser sa croissance sur le fait initial qu'il a été gracié de son péché et de son iniquité. Combien de fois depuis le début du confinement et depuis le début de nos bénédictions matinales, j'ai eu à vous dire combien je ne veux pas oublier mon statut de gracié. Je ne veux pas oublier que j'étais pécheur condamné, que j'étais un pécheur qui était condamnable, justement condamnable, et qui avait été gracié par Dieu. Je ne veux pas oublier le miracle du salut qui s'est passé en moi pour ne pas qu'il devienne tout simplement banal à mes yeux ou qu'il soit banalisé aux yeux des gens qui m'entourent. Je comprends ce que Dieu a fait dans ma vie. Je comprends l'importance de la grâce de Dieu. Je vis aujourd'hui sur la grâce de Dieu. Tout ce que je suis, tout ce que je peux faire, tout ce à quoi je peux aspirer dépend uniquement et strictement de la grâce de Dieu. Comprendre la grâce de Dieu nous ramène dans un état d'humilité. Comprendre et saisir la pensée de la grâce de Dieu, la théologie de la grâce de Dieu, nous ramène effectivement dans cet état que Dieu honore lorsqu'effectivement j'ai un cœur contrit, lorsque j'ai un esprit humble. Donc, la première leçon et le premier piège aussi lorsque nous commençons à servir Dieu. Très souvent, on commence à servir Dieu comme si la chose nous était due, comme si le service était une reconnaissance publique, un honneur public qu'on nous faisait, qui statuait, qui spécifiait qu'on était un peu mieux que les autres qui, peut-être pour le moment présent, ne servent pas encore, ou pour ceux qui n'occupent pas peut-être un poste sur l'avant-scène ou qui est publiquement reconnu. Lorsque je lâche la grâce de Dieu pour penser que les choses me sont dues, je suis en grand danger. Je viens à mépriser le sacrifice que Jésus a fait sur la croix, donc je viens à mépriser sa mort, le don gratuit qui m'a été fait. Je le prends comme si j'étais capable de l'acheter par mes efforts, par la performance que je pourrais offrir. Et tout ça me guide, m'amène, me dirige vers le faux pas de l'orgueil. Alors, je t'invite et je m'invite de surcroît à me rappeler l'exhortation donc de Paul à Timothée de nous fortifier dans la grâce. Nous pouvons croître, nous pouvons solidifier notre vie spirituelle, nous pouvons fortifier notre intimité avec Dieu lorsque nous comprenons que nous sommes dépendants de lui et lorsque nous comprenons que tout ce que nous sommes n'est que grâce. Deuxième point, il va lui dire « Est-ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins ?» Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins. Sachons une chose, nous ne sommes pas des hommes faits par nous-mêmes. L'expression anglaise des self-made men. Nous ne sommes pas là parce que nous nous sommes auto-construits. Actuellement, il y a cette mode des maisons sur laquelle on peut procéder à l'auto-construction. Ça veut dire que quelqu'un bâtit sa propre maison. Ta vie spirituelle, tu ne peux pas la bâtir par toi-même, strictement par toi-même. C'est vrai que c'est nous qui prenons les bonnes habitudes de prière, d'intercession, de lecture de la parole de Dieu. C'est nous qui prenons la décision de nous sanctifier, de mener une vie agréable devant Dieu. Mais sachons que nous sommes le résultat des générations de croyants qui nous ont précédés. Et ici, Paul va dire « ce que tu as entendu de moi ». Ça veut dire que Timothée a été formé auprès de Paul, comme Paul, à un moment donné, va reconnaître qu'il a été formé au pied de Gamaliel, qui était un des érudits et un des religieux de l'époque, très reconnu et très respecté. Et Paul va dire, j'ai un petit chat dans la gorge, désolé. Paul va reconnaître que ce qu'il est, c'est dû, oui, à la grâce de Dieu, bien entendu, mais aussi à l'enseignement qu'il avait reçu de Gamaliel. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir que nous avons effectivement des aînés dans la foi. Et il est important d'apprendre de nos aînés dans la foi. Et aînés dans la foi peut avoir deux connotations. Oui, ça peut vouloir dire effectivement ceux qui étaient là de façon temporelle, donc au niveau du temps avant nous, ceux qui ont connu les expériences avant nous. Et j'ai déjà eu l'occasion de vous parler d'une conversation que j'avais avec le pasteur Fontalvo, qui était effectivement mon père spirituel et celui qui m'a formé dans toutes ces premières années de ministère. Je vous disais qu'à un moment donné, je parle avec lui et je lui dis qu'une situation me perturbe énormément et que je ne saisis pas comment lui, ça pouvait ne pas le perturber autant qu'à moi. Et il me dit, mais il est normal, Florent, qu'ayant 30 ans, tu réagisses de cette manière. Et il est normal que moi, ayant 60 ans, je ne réagisse pas de cette manière. Et si quand tu auras 60 ans, tu réagis encore comme tu réagis aujourd'hui, ben là, ça sera problématique. Il était en train de me dire qu'effectivement, l'expérience que lui avait acquise, et une expérience que j'ai toujours tâché de respecter, était importante. Donc, cette notion de prendre de l'expérience est importante, et c'est important pour moi qui grandis d'avoir aussi ces aînés dans la foi desquels j'apprends. Donc, ceux qui étaient là avant moi dans la question du temps, mais aussi les aînés dans la foi, ceux qui ont progressé peut-être à un point plus élevé que moi. Et là, ce n'est pas toujours une question ni d'âge, ni de temps dans l'Église, parce que le temps dans l'Église, c'est un peu un parcours qu'on fait. Donc, il y a certaines personnes qui pourraient parcourir 1 kilomètre en une journée et quelqu'un d'autre va faire 1 kilomètre en 5 minutes. Ça dépend du rythme avec lequel se passe ta croissance. Donc, tu peux être un aîné dans la foi, même si tu n'as pas un aussi grand nombre d'années. Toutefois, la Bible nous dit d'être respectueux aux cheveux blancs. Paul va parler à Timothée, il va lui dire comment s'adresser à une personne qui est plus âgée que lui, tant un homme qu'une femme, comment il doit s'adresser avec douceur et avec respect profond envers des aînés dans l'âge et voire même dans la foi. Donc, 2 points importants pour débuter. Oui, se fortifier dans la foi. Et 2, savoir apprendre des aînés dans la foi. Je vous ai déjà dit qu'il y a certaines personnes de qui on apprend quoi faire et d'autres personnes qui, par leur faux pas, nous apprennent aussi quoi ne pas faire. J'espère que vous aurez auprès de vous plus de gens de qui apprendre quoi faire que de gens de qui vous apprenez quoi ne pas faire. Mais chose importante, il faut avoir cette attitude enseignable, cette attitude d'étudiant auprès de nos aînés et auprès de la parole de Dieu. Une des grandes erreurs qu'on fait lorsqu'on débute dans l'œuvre de Dieu, c'est de croire que maintenant que je sers, je suis arrivé à un niveau où j'ai plus grand-chose à apprendre. Pourquoi? Parce que je suis maintenant habilité à enseigner d'autres. Comprenons une chose. Tout ce que nous comprenons, tout ce que nous saisissons, tout ce que nous savons, la Bible nous dit que nous connaissons partiellement, que nous voyons et nous comprenons partiellement. Ça veut donc dire que tout au long de notre croissance, si effectivement nous sommes supposés aller de progrès en progrès, comme Paul va l'écrire, ça veut donc dire qu'aujourd'hui, je dois savoir un peu plus qu'hier, mais que demain, je serai assurément un peu plus qu'aujourd'hui. Je dois être dans ce mode de vie, dans ce mode de pensée, où de façon tout à fait sincère, honnête et réelle, je suis dans ce processus d'apprentissage constant. Ne pas parvenir à un point où on croit qu'on ne peut plus m'enseigner, quel que soit le domaine, quel que soit le sujet particulier. Dire, mais moi j'ai déjà de l'expérience avec Dieu dans tel aspect du ministère ou dans tel aspect du service et je n'ai pas besoin d'être enseigné là-dessus. Il pourrait y avoir un mot, il pourrait y avoir une phrase, il pourrait y avoir une orientation d'un verset qui va être enseigné par quelqu'un que tu crois incapable de t'apprendre quoi que ce soit, mais cette expérience qu'il a, ce regard qu'il a sur un verset peut être quelque chose qui sera déterminant dans ta croissance et dans ta progression. Et l'important aussi pour Timothée de reconnaître chez Paul non seulement qu'il était un aîné, mais aussi un père spirituel, un père dans la foi. Et c'est important d'avoir effectivement cette relation avec des serviteurs de Dieu plus avancés, plus connaissants, plus expérimentés dans l'âge et dans l'expérience et dans la parole pour nous former. Peu importe où tu en es rendu. Aujourd'hui, je sers officiellement le Seigneur depuis 97, même si avant ça, je servais le Seigneur dans d'autres hospices, mais officiellement au sein de la congrégation depuis 97. Mais au-delà de toutes ces années, je suis encore dans cet état où j'apprends. Même si j'approche maintenant d'un demi-siècle d'existence, je reste et je demeure et je veux rester, je veux demeurer dans cette attitude où je suis en constante, plutôt apprentissage, en constant état d'étudiant et d'élève de la vie du ministère, de la vie de l'Église, de la parole de Dieu, de la volonté même de Dieu. Donc, un, se fortifier par la grâce, dans la grâce. Deux, apprendre d'aîner dans la foi. Trois, il va dire, ce que tu as entendu de moi, présente-le en présence de multiples témoins. Confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Confie-le à des hommes fidèles qui soit capable de l'enseigner à d'autres. Une des priorités dans le service qu'on oublie régulièrement parce que on est nous-mêmes en train de servir et on aime jusqu'à un certain point être sur l'avant-scène et avoir les projecteurs qui sont mis sur notre personne. Très souvent, on passe à côté d'un des mandats particuliers et important, qui est de former une relève. Paul était en train de dire à un jeune ouvrier, à un ouvrier qui débutait, il dit, regarde, ce que tu as appris de moi, assure-toi d'être toi aussi capable de l'enseigner à d'autres hommes fidèles qui eux-mêmes seront capables de l'enseigner à une génération suivante. Trop d'ouvriers passent à côté de cette responsabilité-là et de ce travail-là en se disant « Ah, le temps viendra, à un moment donné, je serai assez vieux et je pourrai à ce moment-là préparer une relève. » La relève se prépare depuis le jour numéro 1. Tu ne peux pas baser ton ministère et tu ne peux pas baser ton service strictement sur toi parce que tu ne sais pas le jour où tu pars, tu ne sais pas le jour où le Seigneur t'enlève. Et il faut donc que tu sois capable de préparer ce qui va se passer après toi. Bien entendu, Dieu prendra soin de l'Église, Dieu prendra soin du département, Dieu prendra soin du service que tu opérais jusqu'à présent, une fois que toi tu seras parti dans la présence de Dieu, une fois que tu ne seras plus là. Mais il est tout de même de ta responsabilité, comme Paul l'indiquait à Timothée, de s'assurer de trouver des hommes fidèles, des serviteurs fidèles, qui eux-mêmes recevront cette pensée qu'ils doivent eux aussi être capables de transmettre ce qu'ils auront reçu de la part de Timothée, que lui-même avait reçu de la part de Paul. Donc c'est comme ça que l'Église progresse, et c'est comme ça que l'Église va de l'avant, et c'est comme ça qu'on assure la pérennité de l'Église. C'est un système de reproduction perpétuelle dans le corps de Christ où ce que je reçois, je comprends que je vais devoir le transmettre à d'autres qui eux-mêmes devront avoir compris qu'ils devront aussi le transmettre à d'autres. Donc, dès que tu commences à travailler, dès que tu commences à œuvrer, que ce soit au niveau du ministère, que ce soit au niveau d'un service, il faut que tu sois capable de préparer une relève. Nous ne sommes pas là pour faire, et vous excuserez l'expression anglaise, nous ne sommes pas là pour faire des one-man shows. Nous ne sommes pas là pour faire un spectacle avec un seul personnage et c'est ta personne qui est au vu et au su de tous. Tu dois être capable de préparer, d'encourager, de susciter, de pousser vers l'avant une nouvelle génération. Et voilà une pensée qui m'habite de plus en plus actuellement. Non pas parce que je pense que Dieu va me ramener à la maison, mais parce que je crois effectivement que c'est une responsabilité de tout ouvrier. Je disais à Daphné la semaine dernière qu'il y a de ces jeunes gens, il y a même des enfants pour qui je sens que Dieu a placé un appel sur leur vie et je suis en train de prier à savoir, mais Seigneur, comment tu veux que je m'implique là-dedans? Comment tu veux que je prépare un enfant pour ton service qui arrivera avec le temps? Donc c'est une préoccupation pour moi, mais je pense que c'est une préoccupation tout à fait divine et tout à fait biblique de préparer cette nouvelle génération. Donc, se fortifier dans la grâce, apprendre de nos aînés, préparer d'autres générations. Quatrièmement, il va dire à Timothée, et on le voit au verset 3, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Ce passage-là, on l'a déjà étudié et on a déjà eu l'occasion de le décortiquer. Et quand on parle de soldat ici, on parle d'un soldat qui n'est pas en pause, qui n'est pas en permission, qui n'est pas en vacances, mais qui est en service actif. Le terme qui est utilisé ici pour le soldat, c'est un soldat qui est en état d'alerte, qui est en état de guerre. Et il va dire, souffre avec moi, comme un bon soldat de Christ. Deux notions importantes ici. Souffre avec moi, donc il y a cette question d'unité de l'armée de Dieu, cette unité entre les serviteurs, trop de discord, de discordance, trop de désaccord plutôt entre les serviteurs de Dieu à travers les dernières semaines, les derniers mois. Le discours s'est polarisé. Alors, il y a ceux qui sont des aplats-ventristes, il y a ceux qui sont des réveillés, il y a ceux qui sont des tièdes, il y a ceux qui sont des bouillants. Et si tu appartiens dans un camp, tu dis à l'autre camp qu'il est un illuminé, qu'il est un orgueilleux, qu'il est ceci ou le cela. Et puis si tu es dans le camp adverse, tu dis aux autres que ce sont des tièdes et des froids et des ci et des ça. Ça s'appelle diviser le corps de Christ. Paul va dire à Timothée, souffre avec moi. Donc il y a cette notion d'unité qui doit être dans le corps de Christ en tant que serviteur de Dieu, que ce soit à un niveau ministériel, que ce soit à un niveau du service à l'intérieur de l'église locale, nous devons favoriser l'unité par nos paroles, par nos propos, par nos actions. Et très souvent, ça nous demande d'abandonner notre espèce de méfiance viscérale que nous avons envers les uns et envers les autres. J'ai déjà entendu des gens dire « Moi, je ne fais pas confiance à l'Église, il y a des infiltrés, il y a des gens qui sont des serviteurs du diable qui viennent pour servir dans l'Église. » Ça s'appelle présumer du mal. Tu n'es pas là pour juger ton frère puisqu'il est le serviteur d'autrui. Il n'est pas ton serviteur, il est le serviteur de Dieu. Donc, à Dieu de régler ses problèmes avec ce serviteur-là, à Dieu de prendre en compte l'éducation de ce serviteur-là, à Dieu de gérer. À moins que Dieu ne t'ait placé dans une position de supervision dans le corps de Christ, à moins que le Seigneur ne t'ait pas placé comme un mandat apostolique pour gérer des pasteurs, à moins que le Seigneur ne t'ait placé comme pasteur pour gérer des brebis, laisse Dieu s'occuper de ses serviteurs et toi, assure-toi que tu fais ton travail pour Dieu. Mais donc, unité, souffrir les uns avec les autres, unité. De surcroît à cela, ben aussi ça remet de la pensée de souffrir. Comprenons une chose, le service de Dieu, et je le dis régulièrement, c'est le plus beau boulot qui soit. Je fais le plus beau boulot qui soit. Pas parce que je suis pasteur, mais parce que je suis en train de servir le roi des rois et parce que je suis en train de faire ce pourquoi Dieu m'a créé. Alors, pourquoi Dieu t'a-t-il créé? On a dit hier que nous avions tous un service, que nous sommes tous appelés à servir Dieu. Alors, est-ce qu'effectivement, tu es en train de servir? Si tu es en train de servir dans l'Église, tu es supposé en train d'être en train de pratiquer la plus belle chose qui soit sous la surface ou sur la surface de la terre. Mais malgré la beauté de servir Dieu, il y a des journées qui ne sont pas faciles. Pourquoi? Parce qu'on est en guerre contre l'ennemi et l'ennemi s'assure de nous rappeler que nous sommes effectivement des adversaires à son camp. et un soldat, parfois, a mal. Un soldat, parfois, a des contraintes qui lui sont moins agréables. Un soldat, parfois, vit dans un contexte qui est moins plaisant. Et voilà pourquoi Paul va dire qu'il a appris à vivre dans l'abondance comme dans la disette, qu'il a appris à vivre dans les situations faciles comme dans les situations adverses et difficiles. Voilà pourquoi il va dire notamment d'insister en toute occasion, favorable ou non, parce que parfois effectivement on est dans des contextes favorables et parfois on est dans des contextes défavorables. Mais non seulement on va rester unis, mais on va souffrir ensemble comme de bons soldats de Christ. Et juste pour votre curiosité personnelle, le terme « bon » ici devrait être traduit en fait par « fidèle ». Donc non seulement il est fidèle le premier jour, mais il est fidèle le 200e jour. Il est fidèle un an plus tard, en plein creux d'une deuxième ou d'une troisième vague de COVID. Il est fidèle s'il y en avait encore 10 vagues qui venaient nous secouer. Il est fidèle même si la situation actuelle qui est désagréable et défavorable devait perdurer sur le long terme. Donc souffrir avec les frères comme un bon soldat de Christ. Cinquième point, il va dire, il n'est pas de soldat au verset 4, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. Donc il faut comprendre que quand je sers Dieu, il y a une priorisation dans mon service. Et la priorité, c'est Dieu. C'est pas vrai que la priorité, c'est ta femme. C'est pas vrai que la priorité, c'est ton époux. C'est pas vrai que la priorité, ce sont tes enfants. C'est pas vrai que la priorité, c'est ton travail. La priorité numéro un reste Christ. Je vous ai déjà dit qu'à un moment donné, j'étais fatigué de ce baromètre ou cet escalier qu'on présentait devant nous, une échelle. On disait, voilà, c'est Dieu en premier, après ça, c'est toi, après ça, c'est ta femme, après ça, c'est tes enfants, et après ça, c'est l'Église. Et je me disais, mais c'est pas vrai que la vie fonctionne comme ça. Et je suis allé dans une conférence où le conférencier devait parler sur la gestion du temps et je m'attendais encore à ce qu'il fasse cette échelle-là. Et il a dit, regardez, la priorité, c'est Jésus. Et lorsque Jésus aura été ta priorité au début de ta journée, ben lui te dira quels sont le restant des priorités de la journée. Et parfois, il va te dire effectivement, tu es la priorité numéro 2. Mais parfois, il va dire, non, c'est la 3 que tu places en 2. Donc, c'est ta femme que tu places en priorité numéro 2. Et parfois, si tu sers dans l'église, il va dire, non, aujourd'hui, c'est tel frère ou telle sœur qui devient la priorité numéro 2. Donc, mettre Dieu en priorité numéro 1 et ne pas s'embarrasser avec les affaires de la vie, c'était donc à s'assurer que Dieu a le plein contrôle sur notre agenda, Dieu a le plein contrôle sur notre calendrier, Dieu a le plein contrôle sur notre horaire et il a le droit dans cet horaire, dans cet ordre de priorisation, de changer les choses, de chambouler les choses comme il veut. Pourquoi? Parce qu'il reste et il demeure notre priorité numéro 1. Point numéro 6. Il va dire donc, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, le verset 5. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Tu ne peux pas servir Dieu de n'importe quelle manière. Il y a quelques années, je parlais avec un pasteur qui œuvrait au loin. Et il me disait, Florent, ici, il faut graisser la patte des responsables gouvernementaux pour avoir un permis, pour avoir une autorisation de ceci ou cela, même pour avoir ce qui nous est dû d'après la loi, il faut graisser la patte, donc il faut donner de l'argent en dessous de la table à différents fonctionnaires et représentants de l'État si on veut avoir la chose. Sinon, on va nous mépriser, sinon on ne va pas obtenir ce qui nous est dû. Et il me demandait donc de donner de l'argent pour favoriser ce travail en dessous de la table. Et j'ai dit, mais on ne fonctionne pas comme ça. Je comprends que le monde et l'Égypte fonctionnent comme ça, mais moi j'opère selon les règles de Dieu. Et on va donc faire confiance à Dieu qu'effectivement, nous n'avons pas agressé la patte de qui que ce soit. Et c'est ce qu'on a fait. Et enseignement pour cet ouvrier, le Seigneur a effectivement ouvert les portes. Il a effectivement réglé les situations sans qu'on ait le besoin de rentrer dans cette technique de acheter les gens à droite et à gauche pour parvenir à des fins. Ce que je veux dire ici, c'est qu'à ce moment-là, on doit combattre par les règles. Tu ne peux pas dire « je sers Dieu » puis essayer de manigancer des choses à côté. Tu ne peux pas demander l'intervention de Dieu si tu n'es pas prêt à agir selon les règles de Dieu et de l'État. Tu ne peux pas dire « je veux la bénédiction de Dieu » sur la prospérité de mon entreprise ou sur le maintien en vie de mon entreprise et en contrepartie faire des choses illégales avec ton entreprise. Dieu ne peut pas s'associer à quelque chose qui ne fonctionne pas en légalité, qui ne fonctionne pas en justice. Je comprends, là vous allez me dire, oui mais tous les frères qui servent Dieu dans les pays où l'Église est martyrisée, où l'Église est interdite, où la foi est interdite. On parle de deux choses différentes. Tant que les lois de cette terre ne nous amènent pas à renier notre Dieu, on agit avec les lois de cette terre. Ici, on parle essentiellement de rendre à César ce qui est à César et de rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, tant que les lois de cette terre ne nous empêchent pas de louer Dieu, on continue à louer Dieu. Et voilà pourquoi, en tant qu'Église, nous ne sommes pas allés à adhérer dans une notion de désobéissance civile, parce qu'à nos yeux, on ne nous a pas interdit d'être l'Église, on ne nous a pas interdit d'opérer en tant qu'Église, on ne nous a pas interdit de faire l'Église, on nous a juste demandé de la faire différemment dans le contexte qu'on vit actuellement avec la pandémie. Donc, savoir respecter les lois, savoir respecter les règles et obéir selon les règles de Dieu qui ne sont pas toujours en discordance avec les lois des hommes. Donc, servir Dieu en combattant selon les règles qui était notre sixième point. Et dernier point pour ce matin, il va nous dire, et le laboureur, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits, au verset 6, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Avant que tu vois des fruits, il faut que tu travailles. C'est aussi simple que ça. Il y a trop de gens qui veulent recueillir des fruits de leur ministère en cours de route. Ils veulent précéder le temps, ils voudraient que la bénédiction vienne, ils voudraient pratiquement un acompte provisionnel de la part de Dieu en bénédiction, en ceci, en cela, avant d'avoir travaillé. La Bible, dans ce verset-là, va nous dire donc, premièrement, que nous devons effectivement travailler avant de voir les fruits. Donc, quand tu sers Dieu, tu travailles. C'est une notion sine qua non. Tu sers Dieu, donc tu travailles. Tu es dans le ministère, donc tu travailles. Tu n'es pas dans le ministère pour être servi, tu es dans le ministère pour servir. Si tu rentres dans le ministère et que ta pensée c'est « je vais avoir une petite congrégation tranquille qui va prendre soin de moi et qui va me servir », tu es dans le mauvais champ, tu es dans la mauvaise passe, tu as la mauvaise attitude, tu es là pour servir. Et si le fruit vient aujourd'hui, gloire à Dieu, mais s'il tarde à venir et qu'il n'arrive que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, c'est même pas important. Ce qui est important, c'est que tu continues à servir. Et il y a ce dévouement, ce sacrifice de soi qui vient dans le service, qui vient dans le ministère aussi, et que très souvent, dans cette pensée très occidentale, dans cette pensée très moderne, on veut savoir combien ça va me rapporter de faire ceci. Est-ce que faire cela va avoir un débouché? On a fait la tablée pendant des années qui était de prendre soin des gens et de leur donner un repas chaud une fois par mois. Et jusqu'à preuve du contraire, j'ai pas vu de gens qui sont sortis de la tablée et qui se sont joints à la congrégation. Mais ce faisant, on a pris soin de la veuve, on a pris soin de l'indigent, on a pris soin de l'orphelin, on a pris soin de l'étranger. Et ce faisant, Dieu a béni. Donc, il y a des choses dans lesquelles on investit dans le royaume de Dieu, même si le fruit ne vient pas de notre vivant. C'est peut-être simplement l'éternité qui va nous révéler quels étaient les fruits de notre travail. Alors, je travaille avant de recevoir les fruits. Donc, qu'est-ce qu'on a vu ce matin? 7.1, se fortifier dans la grâce. 2, apprendre de nos aînés dans la foi. 3, préparer une relève, préparer d'autres hommes fidèles. 4, souffrir avec les frères comme un bon soldat de Christ. 5, ne pas s'embarrasser des affaires de la vie, avoir comme priorité numéro 1 et comme priorité qui dicte les autres priorités, Christ en numéro 1. 6e point, combattre selon les règles, ne pas mélanger rectitude avec Dieu ou demande spirituelle par rapport à Dieu et puis des manœuvres illégales à côté. 7, travailler avant de recueillir les fruits. Savoir que ça va imposer du travail, que servir Dieu, c'est un travail et que ça va exiger des efforts. Alors voilà ce que nous avions pour aujourd'hui. Je sais que vous êtes nombreux à vous être connectés encore ce matin. On va voir si on a quelques minutes pour saluer les gens, mais prions avant. Merci Seigneur pour ces instructions. Merci pour ces mises en garde alors que nous débutons cette année. Une année de décision, une année de positionnement, une année, Seigneur, où nous prenons des engagements à ton égard, à l'égard de ton Église, à l'égard de ton œuvre. Donc, merci, Seigneur, de clarifier tout cela dans nos pensées, afin, Seigneur, que l'engagement que nous prenons soit un engagement qui soit ferme, soit un engagement, Seigneur, qui est fait sur des bases sûres, et prudente et ferme pour notre croissance et pour la pérennité de ton œuvre. Donc j'appelle ton esprit, ton onction sur le service, sur le ministère de mon frère, de ma sœur. J'appelle, Seigneur, que tu éclaires tous les recoins de leur vie, afin, Seigneur, que l'engagement qu'ils prennent, que ce dévouement à ton œuvre soit fait, Seigneur, selon ta parole. Et en respect, Seigneur, de ce que tu demandes de chacun d'entre nous. Merci de nous garder aujourd'hui. Merci de nous bénir par ton onction et par ta présence. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, je vais simplement saluer quelques personnes. Comme je vous dis, il y en a plusieurs qui se sont connectés et que je ne vois pas d'un côté ou de l'autre. Donc, salutations à tous, mais voici les autres personnes qui se sont connectés depuis nos dernières salutations. Bonjour à Babette, bonjour à la sœur Thérésa, bonjour à Marie-Huguette, à Marie-Marthe, Andrise et Georgette, bonjour à Anna Ruiz et à son époux Carlos, bonjour à Sonny, bonjour à Farley et Marie-André, bonjour à Maggie, bonjour à Ramon, bonjour à Evelyne, bonjour à Yolaine, bonjour à Nancy, bonjour à Irlande, à Lucie, bonjour à Ozani, bonjour Albini, ça fait longtemps. Bonjour à Nora, son époux, bonjour à Nadège aussi. Donc, j'espère que vous aurez une bonne journée, que cet enseignement vous aura été utile. Vous avez toujours accès pour réviser encore un peu plus ce qu'on a dit aujourd'hui. Ça sera bien sûr disponible toujours sur notre page Facebook. Alors, on se retrouve demain pour notre prochaine bénédiction, toujours dans la pensée du service de Dieu, dans la pensée de l'engagement par rapport au service de Dieu. Et demain, on parlera du départ vers l'exécution de la tâche. Donc hier, on a vu l'émission du mandat, l'appel de Dieu pour le mandat qu'il a pour nous. Aujourd'hui, on a parlé de se préparer à exécuter le mandat. Et demain, on parle de partir pour exécuter le mandat. Alors que Dieu vous bénisse, on se retrouve demain matin, même heure, même poste, 8h30 et même quelques minutes plus tôt pour vous saluer, donc demain matin. Que Dieu vous bénisse, au revoir tout le monde.